le temps des capsules.
Radio Cultura vous propose un voyage sonore d'une heure à travers plusieurs capsules radiophoniques enrobées de passages musicaux. Mais avant d'attaquer ces capsules, nous vous offrons un premier passage musical.
Radio Cultura.
Yo, tu veux savoir comment j'écris? J'écris des
pesées
de pensée. Parfois ça n'a ni queue ni tête, parfois c'est profondément sensé. J'écris ce que je suis, je pense donc j'écris, je suis donc je crie, j'écris comme à l'époque tu suis.
RTC Tacola Tibois est un groupe de rap créé en 2021 au CISPA Gastetxe de Bayonne. Pendant les premières années, après avoir donné des ateliers de rap, le collectif RTCTA a vite publié et défendu ses travaux sur scène et dans différentes manifestations. Depuis peu, après réflexion, les initiateurs des ateliers rap ont décidé de se consacrer pleinement à la création d'un EP intitulé Conquista. Nous avons rencontré Olivier, TLM de son nom d'artiste, un des membres du collectif. Dans cette première partie, en plus de nous raconter la naissance de RTCTA Collectibois, Olivier se confie sur sa rencontre et sa relation avec le rap.
J'écris tes plébiscités, j'écris pour mes puristes stressés et dépités, j'écris par envie, parfois par nécessité, quand je vois ce que le rap devient, je suis prêt.
J'ai souvent dit en rigolant, j'ai pas d'enfant mais j'ai des projets, c'est un peu un cursus créatif où tu vois ton projet grandir petit à petit, de la première lettre du premier mot, au fait de le porter en concert. Il y a tout un processus évolutif qui fait que tu prends un plaisir différent, mais pas des moindres, tout au long du cursus.
Comme un horloger, je remets les pendules à l'heure. Lance en fer, forger, le but est viser le cœur. Sans rancune aucune, si ce n'est des lacunes à faire de la thune, j'écris pas pareil.
Et Gounon, ben moi c'est Olivier, TLM, pour mon nom d'artiste, je suis de Bayonne. Je fais partie du collectif RTCTA, membre et cofondateur.
Avec un style précis, j'écris pour mes pélos qui se baladent dans l'Impala, pour qu'ils poussent le son à fond pendant que je suis pas là. J'écris par envie, parfois par nécessité.
RTCTA, c'est un collectif qui à la base avait pour vocation d'être atelier d'écriture au Gastetxe CISPA de Bayonne, et qui petit à petit, suite à certaines demandes, s'est plus mué vers un groupe de rap, en l'occurrence, puisqu'on était tous auditeurs et fans de rap. Donc on a suivi cette voie-là pour ne passer d'un certain nombre à plus que 4. Et puis on a élargi l'équipe avec des techniciens, des gens qui étaient plus dans leur spécialité pour pouvoir monter un groupe concret et aller faire des concerts. Le rap, j'en écoute depuis relativement longtemps, mais étant donné que je suis un peu l'éminence grise, entre guillemets, du groupe, le personnage le plus vieux du groupe, moi j'ai toujours écouté de la musique aussi longtemps que je me souvienne, pas que du rap, mais surtout du rap. Les premiers, j'avais entre 12 et 15 ans, c'était l'apparition plus ou moins du rap français. Nous, à l'époque, on avait des magazines de rap qu'on achetait chez le marchand de journaux, avec le petit CD, avec toutes les dernières sorties. C'était l'actu rap que maintenant on retrouve sur YouTube de manière plus dématérialisée, quoi.
J'en ai peur, je me dois de réussir, la maison n'accepte pas l'échec. Je ne prends que du liquide, pas envie de déclarer mes chèques.
Je pense que déjà c'est une forme d'expression qui parle à tout un chacun désormais, parce qu'on a du rap pour tout public. Donc concrètement c'est entre guillemets la musique du peuple. Et c'est aussi, je pense, pour moi personnellement, dans ma sensibilité à moi, le descendant de la chanson française textuellement.
Pas le temps de m'interroger, je suis en cave, je suis en plonge, je suis en stud, surengagé. J'ai fait un aller-retour en enfer pour voir s'ils étaient préparés au pire. Je reviens pour défenestrer des concerts.
Comme je l'ai dit précédemment, il y a du rap tout public. Pour ce qui est de la base de cet art, c'est très textuel, oui. On peut retrouver des artistes comme, par exemple, IAM, ou d'autres comme Oxmo Puccino qui étaient vraiment tournés vers l'art de la lettre et du beau mot. Et ouais, c'est la base est textuelle, oui.
Certains risquent de manquer à l'appel. Je crois que je vais créer des trous noirs. Juste avant qu'on rit un petit appel. Histoire de raviver les mémoires. Certains risquent de manquer à l'appel.
J'écris depuis 98 de manière plus personnelle et hors rap, on va dire. C'était plus des recueils de poésie. Des choses comme ça, ou des textes dans ma chambre. Mais après, ça s'est plus concrétisé parce que j'ai commencé à avoir des gens autour de moi qui avaient le même attrait pour cette musique-là. Donc, on a commencé, au début, c'était pour faire rigoler les potes en bas au quartier. J'écrivais des petits trucs marrants. Puis après, je me suis vraiment prêté au jeu concrètement. Et là, j'ai vraiment plus bossé le truc et poussé de manière à ce que ce soit concret et sérieux. Et je sors un premier projet aux alentours de 2012. Malheureusement poussé par une actualité très triste, étant donné que j'ai perdu une amie. C'est ce qui m'a poussé à sortir mon premier projet et après j'ai jamais arrêté.
Moi je ne rentrerai pas dans ce jeu. Juste avant Gorilla, petit rappel, histoire de rap,
laver les mémoires, ça parle trop en mon absence et que ma présence fait peur à voir.
À la maison, ma mère écoutait beaucoup de chanteurs à texte. Des Brassens, des Brel, des Ferrat, des Ferré, des chanteurs comme ça. Donc concrètement, c'était l'importance du texte, l'importance d'amener l'auditeur quelque part. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore comme aujourd'hui. On sort une chanson et on va mettre un clip et des images avec. Avant, on avait, de la génération de mes parents, on avait de ces artistes qui, avec un texte, pouvaient t'amener quelque part. Tu fermais les yeux et t'étais projeté dans l'image par le texte. Maintenant, c'est différent, mais c'est comme ça que moi, j'ai été plus ou moins amené à écrire.
Monsieur, 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 tout le monde, la monarchie aux machines. La racine.
Je lisais plus avant, mais ma mère était une énorme lectrice. On avait énormément de bouquins à la maison, donc j'avais ce rapport avec ma mère très textuel et très littéraire. Oui, on avait ce côté proche des mots, l'amour des bons mots, de la phrase juste. C'était quelque chose qu'on partageait énormément, oui.
Pas né avec une cuillère, mais une plume d'argent dans la bouche. Enfin de retour, en sortie du banc de touche, débarque en mode jazzy.
Avant, j'avais tendance à écrire les textes avant la musique, parce que c'était une époque où on pouvait se permettre, parce qu'on connaissait les formats, on connaissait les... c'était l'époque boom bap. Donc tu savais que ton 16 mesures allait dans ce sens-là, tu savais que ça tombait sur tel temps, tu connaissais à peu près la structure musicale de ton univers. Maintenant, les beatmakers ont tendance, avec la venue de beaucoup de courants différents, à structurer leur instrument de manière totalement différente et personnalisée, chacun sa griffe. Donc maintenant, on peut plus, pour ma part en tout cas, on peut plus se permettre d'y aller freestyle et d'adapter le texte après. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'écouter pour pouvoir m'inspirer, me dire « Ah, à tel moment, il y a une montée, je vais faire ça comme ça ». C'est une approche totalement différente de la musique.
J'ai grandi dans une dite errance, parce qu'on m'a persuadé que j'avais une différence. Alors, je l'entretiens et ça fait la différence, car j'ai en moi ce talent.
Dans le boom bap, il y avait ce qu'on appelait le sample. C'est vraiment l'origine du truc. Et on avait ce qu'on appelait le sample, où les gens pouvaient prendre n'importe quelle musique, couper un bout, faire ce qu'on appelle une boucle avec, qui se répète sur l'entièreté de la musique, et faire l'univers de l'instrumental avec. Maintenant, les gens peuvent prendre toute musique ou faire de la compo. Ça se fait aussi, on revient beaucoup sur de la compo, sur des arpèges et sur des choses qui font que ça personnalise un peu plus la musicalité du truc. Et il y a plusieurs univers et chacun peut aller piocher un peu à droite, à gauche pour constituer un peu l'univers du morceau.
Ça tourne, coupé, je paye mon clap de fin d'entrée de jeu. J'ai grandi dans une dite errante, parce qu'on m'a persuadé que j'avais une différence, alors je l'entretiens.
Moi, je suis assez éclectique, je suis pas fermé hormis la techno et toutes ces musiques plus proches de l'électronique avec lesquelles j'ai un peu plus de mal, mais sinon j'essaye d'être le plus ouvert au plus de choses possible pour pouvoir ne pas me mettre de limites entre guillemets. Moi, j'ai eu le rapport au Gastetché par le fait que de mon ancien collectif, avant d'être avec RTCTA, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait La Racine. Et on avait des ateliers d'écriture au Gastetché. On s'était fait prêter le Gastetché pour faire ces ateliers d'écriture. Et petit à petit, moi, je connaissais déjà du monde qui en faisait partie. Donc, une chose en emmenant une autre. On avait un pied dans le Gastetché. Et après, moi, par le milieu de la restauration, j'avais Chomine qui faisait partie du Gastetché aussi. Il a dit, les mecs, éventuellement on peut avoir un créneau pour faire un atelier de rap. Et c'est comme ça que petit à petit, on a plus ou moins intégré le Gastetché, pour ma part en tout cas, par le biais de personnes étant complètement impliquées au sein de ce Gastetché. Et on n'a jamais arrêté depuis. Le Gastetché Sispa a vocation à être, comme tout Gastetché au Pays Basque, un endroit pour tous, fermé à personne. On a essayé de sensibiliser le plus de monde possible, on a reçu des migrants, on a essayé de sensibiliser aussi un public féminin. On a essayé d'être le plus ouvert possible et de montrer aussi que la culture basque était ouverte à tout le monde. Et on a essayé de le faire le plus possible. Il y a eu plusieurs, entre guillemets, étapes. jusqu'à ce qu'on se concrétise en groupe. Mais on a essayé d'être le plus éclectique possible dans nos choix, dans nos accompagnements, parce qu'on a eu des demandes aussi par le biais de sollicitations extérieures. Et on a essayé d'être le plus ouvert possible dans notre démarche, en tout cas. Atxilotu elkarte batzuten sortu galdu ziren jende batzu hori eta gero berritugu etxeratu beti danek segitzen alda. Il y en a qui venaient avec des idées qu'ils avaient travaillées chez eux, en mode « Tiens les gars, j'ai un sujet, peut-être on pourrait travailler là-dessus. » Ou on se mettait autour de la table, on mettait un téléphone, une enceinte, une instru. Et « Tiens les gars, pareil, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Et ça partait spontanément sur une idée que tout le monde validait. Et, c'était très aléatoire, mais il y avait une espèce de connivence qui faisait qu'on pouvait trouver un terrain d'entente. Il y a une espèce de cohérence de groupe, de cohésion qui fait que petit à petit on a des petits réflexes, on sait ce que l'autre va aller chercher, donc il y a une complicité qui se met en place selon les personnes qui viennent, parce que là encore c'était très aléatoire, il y a des gens qu'on voyait une semaine, qu'on voyait pas la semaine d'après, mais il y avait toujours un petit noyau dur, parce qu'à la base, notamment quand on a fait des ateliers d'écriture, il y avait d'autres choses qu'on faisait par le biais des ateliers d'écriture, notamment des interventions chez Radio Cultura avec Joshu. C'était des choses qu'on a aimé faire, qui font partie de notre histoire aussi, et qui ont fait que on a créé une espèce de petit cocon et de noyau dur familial, parce que c'est quand même une histoire un peu familiale aussi, qui se retrouve dans RTCETA et qui a fait qu'on a construit cette complicité-là. Et à la base, on s'appelait Rap Tyler à Cispa. C'était les ateliers rap de Cispa qui nous prêtaient gentiment leurs locaux pour qu'on puisse avoir un lieu d'exercice, entre guillemets. Et petit à petit, au fil du temps, suite à la demande notamment... Et puis notre envie aussi de faire autre chose et d'évoluer, on s'est scindé en groupe et on a commencé à chercher un autre nom, parce que étant donné qu'on vivait une entre guillemets une nouvelle ère du collectif aussi, on s'est dit changer de nom, on a changé de logo aussi, parce qu'avant le logo d'RTCETA c'était un rat qui tenait un stylo. Et jusqu'à ce que Petri dise « Moi, je suis moins fan de ce logo-là, faudrait qu'on actualise un peu l'image, qu'on rafraîchisse un peu la chose. » Et donc, on est revenu sur les trois lettres, sur les initiales RTCETA. Et on a fait un nouveau logo par le biais de la personne de Gorka, le cousin Petri, qui a designé le nouveau logo d'RTCETA. Et on y a ajouté Collectif Bois, ça faisait vraiment plus groupe. Et après, on est devenu le format que l'on connaît maintenant, RTCETA Collectif Bois. Malkoak igurtziak, eriotzak oraindik badu gustu gazia. Nael Malik Usekin, Jose Mari Agustin, Ziet Buna... J'essaye de ne pas me restreindre en matière d'écriture. C'est parfois de l'ego trip, où je vais aller jouer dans des exercices de style pour montrer ma capacité technique, et d'autres fois des choses plus sensibles, plus personnelles. Là dernièrement, j'ai enregistré des morceaux qui sont pas sortis, qui sont vraiment plus introspectifs, qui parlent plus de moi personnellement, mais de manière générale, j'essaye de parler de toutes les choses qui me concernent et qui me touchent. Je peux aller d'un texte sur la vie à ma sensibilité. Je suis pas politisé extrêmement, mais ça peut être mon point de vue sur les choses aussi. Là, par exemple, au travers du projet Conquista qu'on a sorti dernièrement, on s'est mis autour de thématiques comme par exemple le son Ama Il ou Ama Bi, qui parle des violences policières. C'est des choses qui nous touchent tous et c'est des choses qui sont très aléatoires, mais qui, je pense, se doivent d'être abordées. Il y a des moments où t'es plus dans l'écriture, t'es plus cérébral, à t'enfermer, à t'isoler. Moi j'ai tendance à devoir avoir besoin de m'isoler pour écrire. Et après il y a ce côté où on est aussi obligé d'écrire en studio parce qu'on est dans un format de création. Et il y a plusieurs types de plaisir en fait. Il y a ce moment où t'es tout seul face à toi-même, aller chercher un exercice d'écriture. Il y a ce moment où t'es dans la création en studio avec tes potes, où il y a un partage, il y a un échange, il y a une énergie particulière, où tu te retrouves en cabine à poser, à enregistrer, à corriger, à batailler.
Pour la famille Traoré, quelle saveur ça aurait si le taf avait normalement été fait. Il y a du sang, je crois, sur le drapeau français.
J'ai souvent dit en rigolant, j'ai pas d'enfants mais j'ai des projets. C'est un peu un cursus créatif où tu vois ton projet grandir petit à petit, de la première lettre du premier mot au fait de le porter en concert. Il y a tout un processus évolutif qui fait que tu prends un plaisir différent, mais pas des moindres, tout au long du cursus. Et au final, tu as une fierté de le porter sur scène parce que c'est quelque chose que tu as bataillé à faire. Et je pense qu'il y en a qui te diront plus « Ouais, moi je préfère être sur scène, ouais, moi je préfère être en studio, moi j'aime vraiment l'entièreté du truc, parce que c'est indissociable en fait. C'est un plaisir différent à chaque étape, mais il est important de savoir porter toutes les étapes du truc. »
Radio Cultura.
Ez eta gaztan berrak erdiko esurik Ioiz ez da ikusi zugabeko kerik Bainan ez dete juia deusitzuretarik Duenak azer piperre maiten oiru Ez da behar ez du basuari urbindu Tripa utxari ez da emaiten kontseilu Badure gonez norbait norzezu arraindu Txakurtxaga gisala Da dena kukuso Aurrak aita meri da gotzi betiso Bibegi baino hobe dauzkagu bibeso baso bakara baino ez ote bi baso Ez hartzi mino ari zino erakusten Orotan jaune jaunak dira dekausitzen Arbola fruitutik dugu ezagutzen Mostoi eta sasuna maiz dute sendatzen Asko kampuan bildotz da urtsu barnean Zoin dene deritzan nahi duzkiren ian Zimino adurako igaiten arbolan Ipudia hobekia gehiotuan Laguna lagunari beti duria Nolako aita eta halako semea Euriaren ondotik endu Hauzautzailea Hala behara beti dene nausi dago Noradoa naizea arrataizeago Gero dionak usuean nahi beko Presatziak dakarte ondore txapango Amizean aria ez da gorondizen Gizoni bilkarriak ez du ikasen Guztian ez dena gurea desatzen
behar niz baxaluntan nolaz bait gelditu. Hau itxian ez da ni hoiz fitxik sartu, baina ez trompatzeko behar da isindu.
Radio Kultura puntu eus.
RTZ Collectiboa est un groupe de rap créé en 2021 au CISPA Gastetxe de Bayonne. Pendant les premières années, après avoir donné des ateliers de rap, le collectif RTZ a vite publié et défendu ses travaux sur scène et dans différentes manifestations. Depuis peu, après réflexion, les initiateurs des ateliers rap ont décidé de se consacrer pleinement à la création d'un EP intitulé Conquista. Nous avons rencontré Olivier, TLM de son nom d'artiste, un des membres du collectif. Dans cette seconde partie, en plus de présenter l'EP Conquista, Olivier partage avec nous quelques anecdotes de représentations scéniques inoubliables.
Hortan jokalari, besteak xalatari, zure begiak ideki, japlari ez da bertsulari, baina nidazle, besteak dira txistulari, edo ikasle,
On continue de faire avec le plus grand des plaisirs des petites scènes comme les petits gastetchés, les petits endroits. Je pense que ça fait partie de l'ADN RTZ aussi, de vouloir montrer que on peut faire des grosses choses sans être fermé aux petites, parce que c'est grâce aux petites choses qu'on a réussi à aller vers les grosses choses.
Izan erne eta kasu, gure parean zuten egor maten atxilotu, elkarte batzuten txartu galdu ziren jende batzu, hori eta gero berditugu etxeratu.
Egunon, ben moi c'est Olivier, TLM, pour mon nom d'artiste, je suis de Bayonne, je fais partie du collectif RTZ, membre et cofondateur. On a tourné d'abord pendant à peu près un an, sans projet, où on avait chacun des textes, où on essayait de gratter des morceaux collectifs. On a eu des demandes notamment pour la manif pour le logement, où on avait fait un morceau collectif dans lequel on retrouvait aussi des personnages comme Odey Barocho, qui sont des figures intégrantes du paysage de la musique locale. Mais on avait de la demande et à un moment donné, on s'est mis autour d'une table, on s'est dit « bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus ?» Et l'idée de rentrer en studio avec des personnes comme DJ Wall, notamment, qui a le studio Perception Anglette, qui lui, par contre, est une figure emblématique du rap local. Ça fait plus de 10 ans qu'il exerce maintenant, qu'il fait des beats pour l'entièreté du paysage rap au Pays Basque. Il a eu... on va dire bien 85 à 90% des locaux qui ont fait du rap en français en tout cas. Et on s'est tourné vers lui, après s'être tourné DJ Monarch, parce que c'est lui qui avait fait nos premières instrus pour la manif du logement notamment. Et on essaye de montrer qu'il y a d'autres talents, des beatmakers, des ingé-sons. C'est vraiment une chose qui nous tenait à cœur de faire travailler autour de nous des gens qui avaient ces compétences-là.
La 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 la.
Le projet s'appelle Conquista, c'est un 7 titres. On a beaucoup bataillé sur le titre parce qu'on voulait vraiment amener plus qu'un décor. On voulait amener une identité aussi. Et puis pour la venue d'un premier projet, il fallait que ce soit cohérent aussi avec notre identité, avec ce qu'on voulait amener et vers là où on voulait aller. On n'était pas sûr de faire un projet après, donc on s'est dit, quitte à faire un premier projet, il fallait que ce soit une identité forte et qu'on aille sur quelque chose de vraiment voulu, dans lequel le public puisse se retrouver aussi. Donc l'idée de la conquête est venue très naturellement. En tant que premier projet, on allait vers un public, donc on allait conquérir des gens qui ne nous connaissaient pas. Donc le titre Conquista est venu très rapidement. Après, sur le format, on a bataillé parce qu'on savait pas combien de titres on voulait faire. On s'est dit qu'un format court, donc un EP, comme l'appellent les Américains, c'est des petits formats qui font généralement moins de 10 titres. Donc on s'est dit que 7 titres, c'était bien. Et c'est là qu'on est vraiment rentré sur le fond après avoir vraiment déterminé la forme. On est rentré dans le choix des thématiques, morceau par morceau, pishkanaka, petit à petit. On est vraiment allé sur des choses qui étaient plus de l'ordre du détail. J'ai été amené à connaître en premier Iban, frère Asiat, parce que en dehors du rap, on avait un vécu, on a bossé un peu ensemble en restauration. Après, il y a eu ce fameux moment où on a recruté Petri et OPHC. Et Petri qui était, lui, d'Andai, qu'on a connu par le biais de Chomin. C'était un ami, une connaissance de Chomin. Il a commencé à venir aux ateliers et petit à petit à s'imposer comme un cadre indiscutable de RTC. Et en travaillant ensemble, petit à petit, il y a eu des automatismes, des choses qui ont fait que maintenant, on est vraiment un groupe à part entière et ça se ressent dans notre énergie sur scène. On est les quatre sur le devant de la scène avec DJ Wall derrière nous pour la défense de ce projet. Donc Petri, Frère Asiat, TLM et OPHC. Il a fallu relativement bosser parce que certains étaient moins, on va dire, ouverts à la scène que d'autres. Ils n'en avaient jamais fait. Je pense notamment à Ouyan et Petri qui, eux, avaient moins d'expérience même qu'un Frère Asiat, qui lui avait déjà fait un ou deux concerts auparavant. Ça a été beaucoup de boulot en amont, parce que je pense notamment à Petri, il était relativement timide. Au PHC, en quelques répétitions, il a réussi à trouver ses repères et ça a été très vite. Pour Petri, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est quelqu'un de un peu plus cérébral, donc il a un peu moins de faculté à se lâcher. Mais là, depuis qu'on a vraiment commencé le projet Conquista sur scène, et il y a une progression fulgurante qui a été relativement cool. Pour Oyan, ça a été très naturel et très, très fluide. Après, on a un Frère Asiat qui, lui, est solaire par nature, donc aucune difficulté. Et moi, avec ces personnes-là, j'ai appris à franchir un cap aussi et à aller chercher quelque chose que je n'avais pas dans mon jeu de scène. Étant donné que moi, je suis plus de base un rappeur solo, j'ai appris vraiment à me placer dans un collectif et à aller chercher de la complicité sur scène, aller chercher des choses que je n'avais pas pour compléter un peu mon jeu de scène à moi. Et c'est ce qui fait que petit à petit, de concert en concert, parce qu'on commence quand même à avoir relativement beaucoup de concerts à notre actif, c'est devenu naturel. Des concerts comme celui qu'on a fait avec les migrants pour la première DHCZ, un concert où on était quand même une bonne dizaine sur scène minimum. C'était un moment assez spécial pour ma part, parce qu'on a quand même réussi à amener des migrants qui n'avaient jamais fait de concert, qui avaient une sensibilité artistique et musicale particulière de par leur vécu. C'est des gens qui ont vécu des choses qui ne sont pas données de vivre à tout un chacun, avec des histoires très très dures. Et de pouvoir les amener des ateliers d'écriture à la scène des HCZ, c'était quelque chose d'assez spécial. Et ça s'est ressenti même dans leur reconnaissance, parce qu'eux, ils n'avaient jamais vu ça. Donc déjà qu'on les intègre à un événement d'une culture basque qu'ils ne connaissaient pas, ça les a touchés. Et nous, en retour, ça nous a fait hyper plaisir, parce qu'on avait cette espèce d'élément de partage, de pouvoir montrer aussi que la culture basque était totalement ouverte à d'autres choses qu'elle-même. Et on a pu amener d'autres histoires et amener des personnes qui ne se seraient pas forcément tourner vers ce genre de culture, à connaître des choses différentes à travers le rap. Ça a été une très belle communion. Pour moi, c'est l'un des plus beaux souvenirs de concert, en tout cas. Il y a eu les Gastetche que moi j'ai découvert sur le tas. J'avais l'habitude de faire des petites scènes, notamment en solo et avec mon ancien collectif La Racine. Et il y a eu ce moment où Iban, sur un coup de tête, nous a inscrit au travers de... Il avait sorti un projet qui s'appelait Erléa, son premier projet solo. Et à travers son clip, il a clippé un morceau qui s'appelle Oli Shebella, qu'il a, parce qu'il est fan de la Real, lui, il est fan de foot à la base. Et en suivant les stories de la Real Sociedad, il a vu qu'il y avait un concours de maquettes. Donc sur un coup de tête, il a inscrit son morceau Olivier Bella pour le groupe RTZ. Il a été recontacté derrière. On a intégré le tremplin. Neskata la merko beltza azalean eta ez zuria hau da gure gainan duzu nirudia intsultota borroka txarra da zure hipotesia edo zer. C'est un soir, il est venu à l'atelier en nous disant en mode oh les gars, je sais pas, sur un coup de tête, je nous ai inscrit à ce tremplin. Et on a fait ouais, bon, au début on était un peu sceptique. Et puis on s'est dit, oh, ça marche pas, tant pis, on teste. Et puis petit à petit, on s'est retrouvé à faire les premières qualifications. Donc au début, il n'y avait pas de concert, c'était juste vraiment par sélection des sons. Et on s'est retrouvé à faire un premier concert à Garbera. Et petit à petit, on a fait qualification, quart de finale, demi-finale, finale. Et on se retrouve victorieux à Sagoès avec une météo qui ne jouait pas forcément en notre faveur d'ailleurs. Ça a été un concert compliqué, mais assez technique et qui a fait que on va chercher la victoire de manière très très stylée. Et on se retrouve sur la pelouse d'Anoeta devant 30 000 personnes une semaine après, ouais. C'est une sensation, déjà quand on arrive dans le stade vide, tu fais le tour du stade et tu te dis waouh. Quand même. Et c'est après, quand tu rentres sur la pelouse avec les tribunes remplies, avec notamment la tribune Aitor Sabaleta et tous ces supporters qui sont là, attentifs, c'est impressionnant. C'est vraiment c'est une sensation particulière que je souhaite à tout un chacun de vivre parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est une très très bonne énergie. C'est le dernier match de la saison contre l'Atlético Madrid. C'est... des moments qui sont forts à vivre, c'est le dernier match d'une saison et c'est des matchs qui ont beaucoup de sens. Et de se retrouver là en tant que groupe Euskualdun pour un match comme celui-ci, ça a d'autant plus de signification et le message est encore plus fort, oui. Gurasho batek aldu zaindutako asia Zaindutako asia Markoak igurtziak Eriotzak oraindik badu gustu gazia Nael Malik Usekin Jose Mari. Moi à la base je n'étais pas du tout pratiquant de la langue. J'ai mis du temps à trouver ma place parce que pendant très très longtemps, moi j'ai pas eu la chance de pratiquer le basque. Et c'est de par une motivation personnelle de vouloir entre guillemets rattraper mon retard parce que je suis né au Pays Basque Nord, de famille née au Pays Basque Nord. Voilà, en allant chercher aussi de manière totalement spontanée ma place par rapport à cette culture, que je me suis rendu compte que j'y avais totalement ma place et... petit à petit, en trouvant ma place, comme on appelle, de Bellari Precht, d'aller chercher aussi, de vouloir et d'être motivé d'apprendre la langue et de rattraper mon retard, comme si c'était entre guillemets un devoir aussi, de rattraper ce retard que je pensais avoir et que je rattrape petit à petit maintenant avec le plus grand des plaisirs. Talde armatu paraportzialak bere lehen eriotz atentatua burutu zuen Baionak ikian, Brunezkarrikan, Ramon... C'est un plaisir parce que c'est une langue magnifique. Moi j'ai toujours eu un attrait pour les langues, j'ai appris l'anglais sans l'apprendre à l'école, de manière totalement personnelle. C'est une langue très très belle, très très technique, relativement difficile, mais c'est un plaisir, c'est une sensation particulière. Et puis ça montre aussi que à travers la, on va dire le passage de témoin, des gens qui ont envie d'apprendre de manière personnelle et des gens qui ont envie de transmettre, que ça fait taire un peu les gens aussi qui ont tendance à dire que c'est une langue morte. Elle est pratiquée, elle est enseignée, elle est transmise. Donc c'est aussi une manière de dire aux plus sceptiques, on va dire entre guillemets, que c'est pas du tout une langue morte, que c'est une langue bien vivante, qu'elle est pratiquée, qu'elle continuera d'être pratiquée au travers de gens motivés comme moi. Sur le drapeau français, pourquoi serait-on nuancé ? Police, justice, on continue de faire avec le plus grand des plaisirs des petites scènes comme les petits gastetchés, les petits endroits. Je pense que ça fait partie de l'ADN RTZ aussi, de vouloir montrer que on peut faire des grosses choses sans être fermé aux petites, parce que c'est grâce aux petites choses qu'on a réussi à aller vers les grosses choses. Et je pense que c'est important aussi de montrer aux gens qu'il faut rester humble. Alors certes, on a fait un Anoeta, c'est un événement relativement énorme. en tout cas pour nous, petits amateurs qui n'étions pas censés être là à ce niveau-là. Mais on a énormément bossé et on continue de bosser pour aussi montrer qu'on est tout public, qu'on est fermé à rien. On fait des gastetchis comme Lloyd Souné, on a fait Ashkainé, c'est des petites scènes, c'est des petites salles relativement intimistes. Mais c'est important d'aller vers ces publics-là aussi, parce que c'est des gens qui ne vont pas nécessairement dans des gros endroits. Et je pense que la culture rap a sa place dans les petits endroits comme dans les gros. Et c'est très important de mixer les deux, parce que c'est, pour ma part, de la manière dont je le vois, les deux faces d'une même pièce. Ça fait partie du rap, ça fait partie de la culture et ça fait partie de l'envie d'aller rencontrer le tout public aussi. Et de pas faire les élitistes à se dire, ben vas-y, on a sorti un projet, maintenant on fait que les grosses scènes, on va prendre que les gros cachets, c'est pas la DNRT, c'est pas du tout. On fait pas mal de concerts des deux côtés, Pays Basque Sud, Pays Basque Nord. Et c'est la défense d'un projet pour le montrer au plus grand public possible, de le porter au maximum, de montrer aussi quelles sont nos valeurs, parce qu'on est connu d'une petite pincée de personnes, mais je pense qu'on est motivé pour aller le plus loin possible. Et on travaille aussi à de nouvelles choses et qui potentiellement nous feront évoluer. Mais comme je l'ai dit tout au long, on est fermé à rien, donc concrètement on essaye de pas se laisser de limites et d'aller le plus loin possible. Ni Dego et Dan et Derki, Bakarik et Gotem Betty, ni Nice et Dobeste Ak Berdida Ideki.
Hara, Dia, Ari ni Nice, Shayatu, Radio Cultura, Wayetori Denali, Esiotegin et Unko, Ber Nice Atelago, Senenak Batida, Estilo Gusen Arteda, Osho et Rechada Fela, Bakarik Rapaho Karige et Doha. Puntu Eus.
Solamente me amará si son paralelo lo va y viene. encanta, la noche me absorbe para formar nuestra unión. Pero otra tanta en cambio.
Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur... Ah, cueillir les Pyrénées. Avec la participation de Raphaël Garetta, ethnologue au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, et Mathieu Legris, cueilleur et producteur de plantes aromatiques en vallée de l'Ouzome, dans les Hautes-Pyrénées.
C'est un geste, c'est un rapport à la nature et on imagine assez mal que derrière un pot de crème, derrière des tubes de granules homéopathiques, derrière des huiles essentielles, il y a de la cueillette de plantes sauvages.
Bon, alors se lire Thérèse, Juju. Mais là, j'en vois pas trop. Mais il me semblait qu'il y en avait... Ah si, au niveau des châtaigniers, peut-être là. Ouais, on est monté un moment, ouais.
Ce qui est cueilli en priorité, c'est la flore commune. Il y a l'achillée millefeuille, l'ail des ours, le buis, l'aubépine.
Ouais, là, elle est bonne à cueillir quasiment. Bon, faut attendre qu'elle sèche, là, elle est trop humide. C'est super, en fait, de cueillir l'aubépine quand les bourgeons commencent à s'ouvrir, tout juste. Parce que une fois qu'ils sont sortis, le nectar et le sucre, il est avalé par les abeilles et par les bourdons et tous les pollinisateurs. Et du coup, on perd en qualité olfactive et même sans, enfin, voilà, gustative. Quoi. T'es là-haut ? T'es en haut ? T'as trouvé ou quoi ? On va aller regarder sous le ruisseau, là.
Le millepertuis, le hou, le genévrier, différentes mauves, le rosier des chiens, c'est-à-dire l'églantine, la ronce.
Vous pouvez vous faire d'excellentes confitures de mûres. En plus de ça, la feuille aussi s'utilise. C'est une diurétique qu'on cueille au printemps tôt de manière à l'utiliser séchée en tisane. Il y a de multiples fonctions pour utiliser la ronce, donc pourquoi s'en priver ?
Mais il n'y a pas de lyre terrestre ici. Il ne fait pas assez humide. On va aller voir de l'autre côté.
Le sureau noir, la grande consoude, le tamier, le serpolet, le tilleul, le tussilage, l'ortie.
C'est plein de protéines, il y a deux fois plus de protéines dans l'ortie que dans le soja. Donc nous, on le cueille pareil au printemps. Hein.
Faire des tisanes, mais on va aussi en faire des fines herbes. On fait un bouillon des Pyrénées avec de l'ortie et du céleri. Du céleri de la livèche, quoi, du céleri perpétuel.
La reine des prés, le frêne, la spérule odorante, la gentiane jaune, le lierre terrestre.
Voilà, là déjà, il y a du lierre terrestre qui pousse. Donc il pousse en sous-bois. Il pousse dans des zones humides. Quand il a trouvé sa place, il fait des grands tapis et il recouvre tout. Et c'est excellent pour les bronches et les voies respiratoires.
Les myrtilles, la molène, la verveine officinale. Ça, c'est peut-être les plantes les plus cueillies dans nos enquêtes. Alors dans les Pyrénées, il y a énormément de types de cueillettes et il y a énormément de types de cueilleurs, chacun ayant développé des savoirs et des savoir-faire différents. Il est important de comprendre qu'on ne cueille pas du tout de la même façon quand on cueille pour l'industrie et les circuits longs avec tout un tas d'intermédiaires, que quand on cueille par exemple pour du circuit court ou de la vente directe. C'est essentiellement des cueilleurs que nous on qualifie de cueilleurs artisans qui sont installés dans les Pyrénées et qui font de la vente directe et du circuit court. Donc c'est des gens qui cueillent en général sur un espace assez réduit autour de chez eux. Nous on a identifié à peu près peut-être 80 et 100 personnes sur l'ensemble de la chaîne qui auraient ce type d'activité.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature.
Les plantes, donc elles sont toutes séchées, donc pour faire des tisanes et des fines herbes. Dans les fines herbes, on fait des poudres pour des poudres d'aromates pour aromatiser les plats. Et puis après, avec les tisanes, on fait plutôt pour boire, pour le soin aussi. Après, on essaie de décliner petit à petit, faire des vinaigres, des huiles aromatisées, des sels de cuisine, ça on a commencé. Faire des baumes aussi pour la peau, enfin voilà, il y a plein de moyens de les utiliser ces plantains. Nous on les vendait jusque-là beaucoup sur marché. Là maintenant on ne fait plus que le marché de Naï, parce que ça demande quand même du temps d'être sur les marchés. On a nos produits en Biocoop, dans un magasin de producteurs à Lourdes aussi.
Puis après on aimerait bien travailler plus avec des pros dont c'est le métier quoi, hein, des restos ou quoi, ce serait bien. Ce serait une bonne manière de valoriser ce qu'on fait, je pense.
Le parfum, imagine le parfum, l'Éden, le jardin, c'était pour demain.
La cueillette est un secteur en pleine expansion, en tout cas l'utilisation de matières premières végétales sauvages. Et il y a effectivement beaucoup de jeunes ou de gens en reconversion qui sont attirés par cette activité. Et il y a maintenant quelques formations à la cueillette, même s'il n'y a toujours pas de statut officiel de cueilleur.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature.
On devient cueilleur parce qu'on est intéressé par les richesses du monde naturel. Nous, on est des autodidactes, hein, ce que je veux dire, on a appris avec le temps, on a encore toute la vie pour apprendre, on sait qu'on en apprendra tout le temps. Ça n'empêche que le meilleur moyen d'apprendre le métier, c'est de le faire, hein. La meilleure formation, c'est d'être sur le terrain, de prélever, de regarder, d'observer. Il y a une phase d'observation, c'est non négligeable.
Et du coup, on constate une recrudescence du nombre de cueilleurs qui veulent s'installer. Or, la ressource n'est pas extensible. Ça pose justement les problèmes de rapport au territoire, de coins, de confiance, est-ce qu'on dit où est-ce qu'on cueille, de surcueillettes possibles et puis justement de pillage.
Nous, on est organisé avec Nature et Progrès, ça nous permet déjà de pas se chevaucher et de pas trop prélever à certains endroits au détriment d'autres, puis partager nos coins. Tu sais qu'il y a pas mal de gens hein, qui bossent là-dessus, hein, sur regrouper les cueilleurs, en faire une profession et tout ça. Bon, c'est comme tout, hein, si on est vigilant, si chacun est vigilant, ça pourrait le faire. Sinon, après, c'est le permis de chasse, permis de pêche, permis de cueillette, permis de tout, quoi. Enfin, notre parti pris avec Julia, c'est de pas être que sur le prélevé quoi, en nature. Quoi. C'est vraiment de faire de la culture et semer les graines. Aller chercher les graines, par contre, aller chercher les graines dans la nature. Et puis acclimater les graines au fur et à mesure sur le lieu où on est, avec notre milieu, nos caractéristiques de climat. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Faut un peu de temps.
Les cueillettes qui prennent de l'ampleur en ce moment dans les Pyrénées, ça va être l'arnica, bien qu'il n'y ait pas énormément d'endroits où il y ait de l'arnica, et ça concerne peut-être plutôt les Pyrénées-Orientales. La plante qui pourrait poser problème dans les Pyrénées, c'est celle de la gentiane jaune, dont on fait essentiellement de la liqueur, de l'apéritif, mais aussi des produits en agroalimentaire pour les animaux, parce que c'est une plante qui ouvre l'appétit et qui donne envie d'y revenir. Donc, par exemple, pour les croquettes pour chiens. Et... Un petit peu aussi utilisé en cosmétique, mais ça, c'est tout nouveau. Et puis, utilisé en herboristerie, telle qu'elle, en racines sèches et en pharmacie. On estime à 2000 tonnes la quantité de gentiane fraîche qui est extraite du sol français, donc pas seulement dans les Pyrénées. sachant que le Massif central reste le gros pourvoyeur de gentiane, mais il y a des pressions de cueillette telle et des changements de pratiques culturelles qui font que la gentiane devient de plus difficile à cueillir, ou les chantiers sont de plus en plus difficiles, ou s'amoindrissent dans le Massif central. Et donc il y a un déploiement et un redéploiement évident d'arrachage de gentiane dans les Pyrénées. Il y a eu des abus, il y a eu ce qu'on a qualifié de pillage, il y a eu du vol de gentiane, il y a eu des conflits aussi entre équipes de cueilleurs, il y a eu aussi du travail au black, tout un faisceau de facteurs qui ont fait que les services de l'État se sont dit qu'il fallait encadrer ça. Ce qui est considéré comme un don de nature, hein, aller dans la nature, se promener, puis prendre ce qu'il y a là, ben, on est dans un système et dans une économie où maintenant ça va être régulé et normé. La sensualité des cueillettes, parce qu'on est à la fois dans un monde de toucher, dans un monde où le regard et l'œil est extrêmement important. Les cueilleurs le disent, ils déterminent leur œil à repérer la plante qu'ils vont cueillir, et bien souvent on voit, ils ont toujours un œil d'avance par rapport à la main. C'est des odeurs, une cueillette d'ail des ours ou une cueillette de tilleul, c'est tout bonnement fantastique. C'est complètement enivrant, c'est euphorisant, c'est calmant, et puis c'est beau, c'est vraiment beau. La cueillette, c'est une des plus vieilles activités de l'humanité. Et puis c'est probablement celle qui prépare aussi d'une certaine manière son futur.
Ah, cueillir les Pyrénées. On t'enrichit ce carnet, les extraits musicaux de La Fleur de Mathieu Chédide, Le Pouvoir des Fleurs de Laurent Voulzy et Mangez-moi de Billy the Kick. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.
Azkoitiko margirietan, erripoza alaietan. Azkoitiko margirietan, ontsetik etorriko da dulzinaren doinuetan. Azkoitiko margirietan, erripoza alaietan. Jose Mari, erromeri zerromeri, Jose eta Jose Mari, hauekin irugarrena da xantia tabalari. Jose eta Jose Mari, erromeri zerromeri.
Radio Cultura.eus